nossa ideia.
Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec France Culture. Un autre jour est possible en ce mardi 18 novembre, votre réveil culturel jusqu'à 6h30. Et cette semaine, à la réalisation, Michel-Ange Vinti. Dans un instant, Sven Ortoli pour notre série consacrée à Astérix. Astérix, un Européen par Toutatis. Et puis en deuxième partie, je recevrai l'écrivain Jean-Luc Marty pour son dernier roman édité chez Julliard, La mer à courir.
Tu es devenu fou, Astérix. Pourquoi l'encourages-tu?
Oui, parce que c'est vrai qu'il chante drôlement mal, notre barbe. Quand il suit sur une berceuse, il fait fuir les sangliers de la forêt.
Bah justement, quand les membres du jury du concours l'entendront chanter, ils sont capables de le massacrer. Il fait partie de la tribu tout de même, non? Et comme nous ne réussirons pas à le faire changer d'idée, bah autant l'accompagner pour le protéger en cas de bagarre.
Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? En cas de bagarre? Oh bah alors, j'y vais aussi moi au concours.
Bon, allons demander l'autorisation à Abraham Coursix, notre chef.
Sven Ortoli, bonjour.
Ah, bonjour.
Aujourd'hui on va parler de, puisqu'on parle d'Astérix, le Gaulois héros européen par Toutatis, aujourd'hui on va parler du village d'Astérix. Sommes-nous en présence de Gaulois partisans du non-européen, comme on pourrait l'imaginer?
Alors, ce que je peux affirmer avec certitude, c'est que parmi les lecteurs d'Astérix, vous avez des partisans du non-européen, il n'y a aucun doute. Mais vous avez également des partisans du oui. Maintenant que j'ai fait mon normand, ce qui est normal, en parlant d'Astérix, je dirais qu'Astérix est une construction, participe d'une construction de l'Europe. Plutôt que du non à l'Europe. Il participe du oui à l'Europe. Alors c'est un oui qui a été interprété à travers toute l'Europe par les lecteurs d'Astérix. C'est un oui qui a été interprété de différentes manières.
Parce qu'il a été traduit un peu partout.
Bon, alors, il a été traduit partout. C'est un des succès les plus colossaux de la BD. Ça dépasse Tintin, quoi. C'est en tout 350 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Alors, il y a des résistances. Les États-Unis, par exemple, résistent à Astérix. Ils ne comprennent pas. Enfin, quand je dis ils ne comprennent pas, c'est évidemment pas une remarque chauvine de ma part.
Alors, ils ne comprennent que trop bien.
Non, parce que, au fond, on pourrait se dire, les Italiens, par exemple, pourraient se dire, attendez, l'Empire romain, c'est quand même un peu nous, et pourquoi est-ce qu'on se laisserait brocarder comme ça? Parce que, Astérix est aussi un succès en Italie, enfin, moindre qu'en Allemagne, hein, toutefois, mais c'est aussi un succès, et les Italiens, en tout cas le philosophe italien que nous avons interrogé dans le numéro, ce philosophe ne considère pas que les légionnaires romains représentent l'Italie. Ils représentent, sont des braves types, toujours un peu bêtes, qui se font toujours casser la figure, mais ils ne représentent pas l'Italie. Chacun a une lecture qui n'est pas... Il n'y a pas de lecture, comment dirais-je, corrosive selon les nationalités. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, je dirais qu'Astérix et Obélix résistent. Ils résistent à la mondialisation, métaphoriquement, ils résistent dans un petit village, parce que dans ce petit village, au fond, qu'est-ce qu'ils veulent? Ce qu'ils veulent, c'est arrêter le temps. C'est faire en sorte que tout soit dans une espèce de c'est ce que dit un écrivain dans le numéro, tout soit dans une sorte de stase. Stase, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en science-fiction, c'est-à-dire où ça va être figé à l'instant. Mais c'est figé pourquoi? C'est figé parce qu'il y a des forces qui s'exercent dessus. La force, c'est la force de l'Empire et la résistance. Si vous supprimez la résistance, la stase s'écroule, le village d'Astérix disparaîtrait. Et ce que raconte cette histoire, et c'est pour ça qu'elle plaît, mais je pourrais le raconter autrement, mais c'est parce que, un, elle est bienveillante, deux, elle vous raconte une histoire de résistance. Qu'est-ce que c'est la résistance aujourd'hui, sinon le sujet principal qui nous traverse, qui traverse tous, que ce soit nous, toutes les générations.
Mais Sven Ortoli, aujourd'hui, les partisans du non à l'Europe se considèrent comme des résistants, à la mondialisation.
Tout à fait, et c'est pour cela que je vous disais que parmi les lecteurs d'Astérix, il y a certainement beaucoup de partisans du non, de gens qui disent, mais attendez, c'était mieux avant, Et c'est très possible que dans certains cas, ce fut mieux avant. Sauf que la mondialisation ne peut pas, on ne peut pas rester sur le quai d'une gare. Mais je ne vais pas me faire l'apôtre de l'Europe. Ce que je veux dire simplement par rapport à la résistance, c'est que vous avez cette double lecture possible. Et finalement, la vertu d'un aphorisme, si on va chercher du côté des moralistes, la vertu d'un aphorisme, c'est de pouvoir être lu dans les deux sens. La vertu d'Astérix, c'est de pouvoir être lu dans plusieurs sens aussi. C'est-à-dire que cette idée de résistance, vous pouvez la voir comme une résistance réactionnaire, une résistance au temps qui passe alors que le temps passe malgré tout, une résistance à la mondialisation alors que de toute façon elle est là, une résistance au progrès de manière générale. On peut s'interroger sur ce que ça signifie, mais et de toute façon, il est là, qu'on le veuille ou non, nolens volens, pour faire un peu de citation latine, parce que ça aussi, c'est un des intérêts d'Astérix, c'est qu'il a redonné, il a donné un petit goût du latin à des gens qui sinon l'auraient totalement oublié.
Et justement, ce petit village de Gaulois irréductibles, c'est aussi... le village des grincheux, de ceux qui disent non à chaque fois, de ceux qui protestent pour un oui, pour un non, ceux qui sont tentés à remettre les polémiques toujours comme une bonne raison pour se bagarrer. Ce sont des bagarreurs, très souvent.
Ce sont des, ah oui, aucun doute, ce sont des bagarreurs et assez volontiers grincheux. Il y a l'exemple canonique. En l'occurrence, c'est AG Canonix, justement, qui porte bien son nom. Mmh. AG Canonix, qui dit volontiers « dehors les étrangers ». Ou au contraire, « j'aime bien les étrangers, mais lorsqu'ils sont dehors, lorsqu'ils ne viennent pas chez nous ». Et donc, il y a cette représentation, parce qu'il y a cette peur. Enfin, Astérix naît en 59, en album, il naît en le premier album paraît en 61. Donc il y a à la fois la décolonisation et ce mouvement de construction de l'Europe qui va aboutir à ce qu'est aujourd'hui. Mais enfin, à l'époque, elle est encore pleine d'espoir. C'est-à-dire qu'on imagine que l'Europe va être la solution de beaucoup de choses, et en particulier la solution face à l'Empire russe, face à l'Empire américain. Tous ces courants traversent, comme c'est naturel, une œuvre d'art une bande dessinée ne naît pas de nulle part.
C'est le principe même d'Astérix de parler de l'actualité faire des clins d'œil à l'actualité à chaque fois, même si le contexte historique nous ramène à des siècles en arrière.
Oui, c'est son principe. Et donc dans ce village qui est fait de personnalités diverses qui s'affrontent en permanence, qui se castagnent, qui se bagarrent et qui se réconcilient toujours à la fin, c'est l'image d'Épinal, le cliché, le stéréotype, au sens ancien du terme, du français tel qu'on veut le fantasmer dans ces années 60, c'est-à-dire... c'est l'idée de républicaine du Gaulois avec sa moustache, avec son festin, son banquet, un peu bagarreur, grincheux, mais au fond très gentil. Donc quand je dis très gentil, il y a toujours cette idée de bienveillance. Donc on est dans cette image d'Épinal, et on va être. Et ce que va l'un des voyages d'Astérix dans ses albums, c'est le voyage à travers les clichés.
Et ce voyage à travers les clichés n'épargne pas un autre cliché d'un Astérix plutôt proche du terroir. En tout cas, le Made in France, il est très présent dans les aventures d'Astérix. Je dirais même le Made in Gaulle, quoi.
Il est extrêmement présent, il est vanté.
Quitte à manger du poisson pourri, autant que ce soit notre poisson pourri.
Exactement. Oui, il est vanté, il est... mais bon, c'est encore. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'avais une chose qui me fascinait, c'était une chose auquel mon père allait régulièrement, qui était le réarmement moral. Le réarmement moral, c'était un mouvement lancé par un pasteur allemand qui avait résisté et qui était fait pour qui participait à la construction de l'Europe. La construction de l'Europe par en particulier en promouvant un certain nombre de vertus, dont la fraternité, dont la réconciliation entre les peuples, etc. etc. Eh bien, je trouve que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, réarmement moral, ça me paraît. Plus tard, j'ai pensé que c'était, en grandissant, j'ai pensé que c'était très pompeux. Et aujourd'hui, je me dis, oui, c'est Astérix, c'était ça le réarmement moral. Fondamentalement, c'était une manière de dire aux gens, de vanter aux lecteurs, les vertus de la fraternité, enfin les vertus républicaines, et les vertus d'une Europe qui serait réconciliée. C'est pas mal quand même.
Et la potion magique, c'est quoi ?
Ah, la potion magique, ça c'est...
C'est l'art nucléaire.
C'est, la potion magique, vous pouvez y mettre au fond, ce qui est important, la potion magique, c'est pas tellement que c'est...
C'est le patriotisme ou c'est la science
au fond, c'est ce que vous voulez, c'est-à-dire que c'est pas un contenu, c'est un contenant. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, la potion magique, c'est une expression qui est devenue extrêmement populaire, déjà dans les années 60, à la fin des années 60, dans le monde politique, ou même dans le monde industriel,
grâce à Astérix, vous voulez dire ?
Ah oui, bien sûr. Mm-hmm. C'est-à-dire que chacun, dans les journaux, vous trouvez l'expression, il ferait bien de prendre un peu de potion magique. Ou aujourd'hui, on brocarde volontiers un homme politique en disant il n'a pas trouvé la potion magique. Donc c'est un peu ce que vous voulez. Mais c'est utilisé en marketing, c'est utilisé en politique, c'est utilisé en économie. Et ça signifie cette espèce de truc que vous ne sauriez pas rationaliser, mais qui va être là à un moment, qui va vous donner... l'énergie.
Mais comment vous le comprenez, la potion magique, c'est le génie français, c'est le progrès technologique ou c'est le terroir ?
Certainement pas le terroir, ni le progrès. Pour moi, la potion magique, c'est la petite étincelle de fantaisie qui fait qu'on peut transformer quelque chose de...
Nos faiblesses en atout.
Pas les faiblesses en atout, mais plutôt la sottise en quelque chose de gentil. Je pense qu'il y a quelque chose de profondément... Alors évidemment, il se casse la figure avec cette potion magique. Et souvenez-vous de la polémique que ça a lancé à un moment. Un philosophe avait dit, mais attendez, Astérix, fondamentalement, c'est fasciste. Bon, il avait cette lecture-là, mais c'est pas que sa lecture soit totalement inintéressante. On peut se poser la question. Après, la réponse qu'il donnait me semblait erronée. Me semble toujours erroné. Mais vous voyez, cette potion, elle a quelque chose de... après, on est dans une... elle a quelque chose de magique, justement, parce que vous pouvez en faire des... Elle est multiforme. Elle est protéiforme. Voilà, c'est protée, cette potion magique. Elle se transforme à chaque fois. Alors, le terroir... attendez, si on veut rester dans les images d'Épinal et dans les clichés, on peut les dévider, les clichés. Mais justement, la potion magique, elle va permettre d'enfoncer les clichés.
Merci Sven Ortoli. On se retrouve demain pour la suite de notre série Astérix, un Européen par Toutatis.
À demain.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Bonjour Jean-Luc Marty.
Bonjour.
La mer à courir, c'est votre dernier roman, édité chez Julliard. Hier, avec Anna Rosen, on parlait de son dernier livre, qui est une réécriture, une réadaptation, une adaptation ou un détournement d'un roman de Jean de Tinon. C'est édité chez Le Dilettante. Et c'est pour ça que je voulais vous avoir tout de suite le lendemain. Vous faites la même chose avec Paul Irini.
J'allais dire que moi, c'est peut-être davantage un détournement de sens qu'un détournement narratif, en fait, à vrai dire. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait dans le livre de Bernardin de Saint-Pierre, c'était la façon dont, vu de France, nous vivions à l'époque nos lointains, à 15 ou 20 000 kilomètres de là, que ce soit dans l'océan Indien ou en Polynésie, mais dans l'océan Indien, en ce qui concerne Paul et Virginie, et notamment dans cette île Maurice qui s'appelait l'île de France à l'époque. J'avais très envie de re-questionner à partir de ce livre nos lointains aujourd'hui. Sont-ils à 15 000, 20 000 kilomètres ou sont-ils à 20 mètres derrière chez nous ? Voilà, c'était une question qui me...
Et pas seulement les lointains, parce que c'est un livre aussi sur la géographie, l'histoire française d'aujourd'hui, puisque Paul va atterrir dans une France bien particulière, celle des banlieues. C'est là où il va rencontrer Virginie, qui elle travaille dans ces grandes tours qui sont la marque d'aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi justement cette rencontre pour parler de la banlieue, des crises de la France d'aujourd'hui, Jean-Luc Marty ?
Bah, c'est la notion de lointain, justement. C'est-à-dire que le
seul poste... quelqu'un voilà. de loin peut voir ce que oui, nous, on a désappris à voir, c'est ça ?
Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une France qui est en train de se réveiller totalement étrangère à elle-même aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a un voyage qu'elle ne fait pas ici même. On l'a vu lors des émeutes de 2005, par exemple, où on s'est rendu compte que de l'autre côté du périphérie, il palpitait là quelque chose que beaucoup de gens du centre pouvaient ignorer. Alors, c'est pour ça que cette Île-de-France m'intéressait là. Enfin, c'est là où il y a la relation avec de Saint-Pierre. Et puis parce que dans le livre de Bernardin de Saint-Pierre, il y a à la fois l'histoire de Paul et Virginie, mais il y a aussi la relation de voyage de Bernardin de Saint-Pierre à cette Île-de-France de l'époque. Et je m'étais dit, mais pourquoi finalement il n'a pas mélangé les deux ? Ça aurait peut-être densifié le livre. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est effectivement... un voyage à l'envers, c'est-à-dire un Paul qui vient de Polynésie française, qui débarque dans une cité et qui finalement va se retrouver dans la posture de ce voyageur à l'envers, d'autant plus qu'il vient faire des études de cartographie, de géographie. Bon, on ne va pas raconter pourquoi il débarque, c'est un peu un hasard qu'il débarque là, bien sûr, mais je trouvais que ce point de vue à l'envers du voyage était très intéressant. C'est-à-dire qu'il va faire un voyage dans cette périphérie-là que le Français de souche ne fera pas, quoi, ne fait pas. Donc, qu'est-ce qu'il va y voir que nous n'y voyons pas ? C'est ça, la notion de lointain. Virginie, elle travaille dans ces entreprises, entre guillemets, cette espèce de ceinture de verre qu'on trouve dans les périphéries, ces immeubles de verre qui jouxtent ces cités et ces quartiers sensibles. Lorsque vous allez, par exemple, vers Gennevilliers, dans la banlieue parisienne, immédiate, de l'autre côté des fleuves, là, ben vous trouvez ça. Et il y a un côté un peu butzatien, ces entreprises. C'est-à-dire qu'elles tournent le dos, j'allais dire, à ces quartiers dits sensibles, d'où viendraient les barbares, entre guillemets. Mais la question du livre, c'est où sont les barbares ? Ne sont-ils pas dans les entreprises de cette économie mondialisée-là, où règne l'absurde, alors que dans ces cités, finalement, on en reparlera peut-être plus tard, règne plutôt une forme de mélancolie très contemporaine, quoi. Ces histoires de gens à qui on a enlevé le présent et qui n'ont d'autres solutions, que de se crisper un petit peu sur la mémoire, quoi, pour tenter de survivre.
Et dans ce livre, Jean-Luc Marty, quand vous montrez bien que le choc des cultures, parce que là, on est en plein choc des cultures, correspond aussi au choc des paysages, est-ce que c'est parti d'un constat que vous avez fait, peut-être après les émeutes de 2005, puisque vous venez d'en parler, ou c'est plutôt d'une envie d'aller découvrir justement cette banlieue ?
J'allais dire, ça, c'est ma façon d'écrire, en fait. C'est-à-dire que, en toute humilité, mais si démarche littéraire il y a, elle est par là. C'est-à-dire, je suis plutôt un être de l'errance que du voyage, en fait, d'une part. Et c'est là où je rejoins beaucoup de ces gens qui, venus de très loin, atterrissent ici, c'est que je pratique une littérature du flottement, totalement, que j'assume, c'est-à-dire à l'intérieur de laquelle on flotte à l'intérieur de paysages, on flotte à l'intérieur d'atmosphères, on cherche quelque chose, c'est-à-dire dans ce paysage auquel se raccrocher. Et chez tous ces gens qui viennent de très loin, on remarquera qu'il y a une acuité visuelle très forte, en fait, chez eux. Quand vous fréquentez un peu les mecs du trottoir, comme c'est un peu mon cas pour plein de raisons, que ce soit le sport, que ce soit la musique ou autre chose.
Ou les nombreuses années passées à faire du journalisme, et un journalisme bien spécial, puisque vous étiez à la tête de Géo, Jean-Luc Marty, je le rappelle.
Oui, où c'est vrai, on se frotte à cet ailleurs. Et puis c'est vrai aussi que j'allais dire, d'un point de vue plus intime, familial, il se trouve qu'une bonne partie de ma famille vient de la cité. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas une posture esthétique chez moi. Juste, ce sont des lieux que je fréquente, les paliers d'immeubles. Et c'est vrai que lorsque l'on est à l'intérieur, j'allais dire, des cités, lorsque l'on quitte un petit peu le côté caricature du média qui ne raconte la cité qu'à travers le fait divers, et donc les 10% de mecs qui sont dans le trafic, la cam, les deals, qui tiennent les halls, il y a 80 à 90% de personnes, j'allais dire, qui sont rayées là. Tout d'un coup, ils sont au banc de la République, quelque part consignés au banc. C'est ces zones blanches de la géographie ou grises. Bon, et cela, comment vivent-ils ? Et on se rend compte qu'ils se lèvent à 4 heures le matin, ils se lèvent à 5 heures, les femmes vont faire des ménages, les types travaillent comme cantonniers, beaucoup font des études, on oublie de dire ça, dans toutes les cités de France. J'ai fait des lectures l'autre jour à la cité des Francs-Moisins, j'étais avec des étudiants qui viennent de la cité des Francs-Moisins, quoi, voilà, qui sont lycéens, lycéennes, qui sont étudiants. C'est 80 à 90% de gens dont on ne parle pas. Ce sont nos lointains d'aujourd'hui. C'est ça que raconte ce livre, quand même. Idem dans les entreprises. Alors, autant la mélancolie, c'est la cité, mélancolie un peu contemporaine, comme ça, on ne sait pas où on va, d'où ça vient, où ça... Voilà, c'est quand même ce début de siècle, quoi. Ouais. Cette espèce de court-termisme permanent. Mais où sont nos pères aujourd'hui pour nous montrer le chemin, nous guider un petit peu? Ça serait quoi notre sortie d'Égypte aujourd'hui, entre gens de paix? Ça, c'est une question. L'autre, avec l'entreprise, c'est l'absurde. C'est le monde de l'absurde, c'est l'économie mondialisée. Ce sont des jeunes gens, puisque pour les Virginie, on 24 ans, quoi, à peu près. Ce sont des jeunes gens qui se retrouvent plongés dans cet univers qui est si transparent dans l'architecture, presque, ça devient opaque, quoi, pour eux. Et important, quand même, dans ce récit, c'est que Paul et Virginie sont eux-mêmes des gens à la périphérie d'eux-mêmes. C'est dans ce sens-là que ce n'est pas juste un livre sur la banlieue, sur... Vous voyez, je fais attention à ça. Déjà, banlieue, c'est connoté. Quand je parle de périphérie, c'est que je pense, par exemple, que la France est à la périphérie du monde. Aujourd'hui, on est passé à la périphérie. Je pense que les énergies sont passées dans les périphéries, que les centres se sont décentrés. C'est pour ça qu'à un moment, je dis peut-être que la beauté va naître de ce chaos-là. Ouais. Vous voyez, voilà, c'est un peu ce que j'ai essayé d'écrire et le paysage joue un rôle, le paysage mental, le paysage géographique.
Et le point de départ, c'était quoi alors, Jean-Luc Marty, pour répondre à la question?
Le point de départ,
ouais, c'était l'hommage à Paul et Virginie, l'envie de parler de la société
c'était
d'aujourd'hui.
C'était pas un hommage, c'était plus...
L'envie de parler ouais, de voilà. vous et de ouais. votre famille et des histoires plurielles qui constituent aujourd'hui votre, votre famille, votre grande famille française. J'ai juste noté que vous avez dit que votre famille était issue des cités. Vous auriez pu dire qu'elle était issue d'une autre culture ou...
mais vous avez... ouais, non, mais... je suis représentatif de la France aujourd'hui. Ouais, ouais. Moi, je suis quelqu'un qui vient de Bretagne, entre guillemets, mais enfin qui vient d'un port, c'est-à-dire déjà d'un endroit où ça brasse quand même, on va dire, pas mal naturellement. Ouais. Voilà. Et comme tout Français, entre guillemets, de souche, vraiment entre guillemets, voilà, il se trouve que ma vie a croisé voilà, des gens qui viennent d'ailleurs. Et quand je suis avec ces gens-là, qui viennent d'ailleurs, mais il y a très longtemps, je ne comprends pas pourquoi on continue à parler d'immigrés, d'étrangers, à des gens qui sont là depuis deux, trois générations, dont les fils eux-mêmes vous racontent que quand ils retournent au bled, c'est eux les touristes, et dont certains n'y retournent pas. Je veux dire, lorsque vous êtes dans ces familles-là, vous êtes en famille, vous n'êtes pas avec des immigrés, ma femme n'est pas une immigrée, c'est juste mon histoire d'amour. C'est peut-être une autre façon, vous comprenez, de parler, c'est de parler de ce monde-là. Après,
c'est très généreux de votre part, vous savez que vous êtes à contre-courant de la pensée dominante d'aujourd'hui. Hein.
C'est pas généreux, moi je suis un fils plutôt de Francis Carco que de Nicolas Bouvier. Je suis plus un fils de Sandrard, j'allais dire, que de Bruce Chatwin. Je viens plus, j'allais dire, de ce monde, voilà, qui pour moi la littérature, c'est la possibilité d'entrer dans la complexité. Et pas du monde, et de pas y rentrer en moraliste, en anthropologue, en philosophe, ou je ne sais, ou en journaliste d'ailleurs, du tout. La littérature me permet de rentrer dans cette complexité et d'y rentrer, j'allais dire, voilà, débarrasser de tout fardeau, qu'il soit idéologique ou autre. Bon, donc c'est le terrain de la liberté, c'est le terrain de la sincérité. Et puis La Dépression des Açores, mon premier roman, qui raconterait l'histoire d'une rencontre entre un marin de commerce en stand-by dans un port et une Albanaise qui est une réfugiée qui débarque d'un bateau. Je suis dans ces histoires-là. C'est celle qui peut-être me concerne, pour des raisons intimes aussi, mais c'est celle, qui est celle de mon époque, totalement de mon époque. On ne peut pas, avoir traîné un petit peu comme ça dans l'ailleurs, dans les lointains, pour le coup. Mmh. Le voyage, pour moi, il est immobile, quelque part. Le voyage, il est tout intérieur. Ce n'est pas une question de milliers de kilomètres, du tout. Ça, c'est des postures, c'est des séjours que l'on va passer à l'étranger. Rares sont les très grands voyageurs. De toute façon, les très grands voyageurs, c'était qui? C'était les commerçants. Marco Polo, il ne traverse pas la géographie, il traverse pour le plaisir de regarder le ciel et les montagnes. Non, ouais. Les Phéniciens ne traversent pas la Méditerranée à l'époque pour ça. C'est le business, c'est les conquêtes, c'est les missions. C'est ça, les grands voyageurs. Bien. Mais ces gens qui viennent d'ailleurs dans l'histoire de la France industrielle répondent finalement beaucoup mieux que ce qu'on appelle les voyageurs venus de chez nous à cette double définition du voyageur, c'est-à-dire l'initiation à l'autre. Qu'est-ce que fait d'autre un garçon qui arrive de Syrie aujourd'hui, si ce n'est s'initier tout d'un coup à une Europe qu'il méconnaît totalement, à un langage, à des gens, à une géographie, et s'initier à cette autre partie qui fait le voyage, à quelque chose qu'il ignore de lui-même? C'est ça ce qui fonde la double initiation du voyage. C'est dans ce sens-là que quand on pose la question sur les grands voyageurs d'aujourd'hui, c'est pas l'exotisme le voyage d'aujourd'hui. Les grands voyageurs d'aujourd'hui sont les migrants. sont eux les grands voyageurs.
La mer à courir, donc, de Jean-Luc Marty. Hier, je recevais Anna Rosen pour son adaptation de Jean de Tinon, pour J'ai eu des nuits ridicules, édité par Le Dilettante. Et j'avais l'impression, en lisant ces deux livres, qu'on avait tout à la fois l'hommage à une littérature française, c'est-à-dire, voilà, on rend hommage à des auteurs, c'est le patrimoine, mais aussi une envie de raconter le réel, la société française, et très bizarrement, dans des styles très différents, vos deux romans sont complémentaires, parce qu'avec les deux romans, on a l'impression d'avoir toute la société parisienne, et à partir de la société parisienne, intra et extramuros, nous avons aussi une idée du monde, et Anna Rosen est revenue, justement, vous venez d'entendre justement Jean-Luc Marty parler de son livre, je rappelle, édité chez Julliard, La mer à courir. Un commentaire peut-être, Anna Rosen, avant... Merci d'être passé d'ailleurs.
Ben avec plaisir. Non, mais je trouve ça très intéressant, effectivement, quand il dit, quand on parle de la périphérie ou des banlieues, comme on dit dans les médias, on parle de 10%, c'est peut-être que 3% d'ailleurs, et les 80% vivent très bien, ça me fait penser à Nous sommes les 99%. Mmh. C'est vraiment qu'en ce moment, on est là-dedans, c'est-à-dire qu'on a... Valérie, elle va peut-être pas jusque-là. C'est aussi un roman sur la mauvaise conscience, le mien. Sur effectivement, nous, on vit, enfin, moi, je vis, c'est en ça qu'elle me ressemble, une vie privilégiée. J'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger, j'ai un métier plutôt agréable, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Enfin, il n'y a pas de. Et je vois bien que le monde autour se délite d'une manière terrible et qu'il faut faire quelque chose. Donc. Je pense à ça, je dis que les gens qui écrivent sur les 80% et qui disent nous sommes les 99%, c'est des gens qui m'intéressent. Je sais qu'effectivement, c'est là que l'avenir, il est là, l'espoir, il est là. C'est qu'enfin, la majorité parle.
Merci Anna Rosen. Je rappelle le titre de votre ouvrage, édité par Le Dilettante, J'ai eu des nuits ridicules. Et merci Jean-Luc Marty, titre de votre dernier roman, donc La mer à courir, que je vous recommande vivement, Anna Rosen.
Mais je vais y courir.
Et vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça?
Ben non, j'aimerais bien savoir pourquoi ça s'appelle La mer à courir. J'ai cru que c'était à cause de la mer à boire, mais en fait...
Jean-Luc Marty.
Il y a deux raisons. La première, c'est que c'est une expression de marine, en fait, qui n'est pas la mer à courir, qui est l'eau à courir. Donc, j'ai des copains qui font, par exemple, du bateau, qui disent il y a peu ou beaucoup d'eau à courir. C'est-à-dire, vous avez peu ou pas beaucoup, ou beaucoup d'espace de manœuvre, en fait, pour manœuvrer.
C'est en profondeur ou en
espace ? Non, en distance. C'est-à-dire, vous pouvez être près des rochers, près de la côte, près d'un autre bateau, et ça peut être... peu d'eau à courir. Après, la mer à courir, c'est parce que la mer, en fait, court tout le long du livre. En fait, elle est portée par les personnages. Et le véritable enjeu, c'est presque un livre sur la mer sans y être, en fait.
On apprend des choses, voilà. On rencontre des gens très sympathiques. Il n'y a pas de doute, vous êtes sur France Culture. Merci d'être avec nous. Merci. Merci beaucoup, Anna Rosen. Merci, Jean-Luc Marty.
Merci.
Je vous retrouve demain. Bonne matinée sur France Culture.